Donc notre Mishnah, Mishnah 12, donc chapitre 3, Mishnah 12 de Kiddushin, va parler de ce qu'on appelle le yichus d'un enfant. D'accord ? Ça veut dire pour ça, pour pouvoir déterminer est-ce qu'un enfant est cachère, avec qui il peut se marier, avec qui il peut pas se marier. Mmh. Bon. Donc c'est toujours dans la même lancée que Kiddushin, surtout qu'on a parlé, la semaine dernière, on a parlé du fait que dans le cas de certains mariages, d'accord, si par exemple quelqu'un il vient voir une femme et il lui dit je me suis marié avec toi, je t'ai consacré. Et la femme dit pas du tout, jamais tu m'as consacré. On dit que l'homme, puisqu'il s'est engagé, il a dit que cette femme-là, il s'était marié avec elle. Donc, du coup, il a plus le droit de se marier avec les sœurs de cette femme. Puisque on n'a pas le droit de se marier avec des sœurs. Bon. Donc, c'était un exemple, ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, on va parler du Yichus. C'est une Mishnah qui est relativement longue. Qui dit, Kol makom she yesh kidushin, tout cas dans lequel yesh kidushin, ça veut dire, il y a eu de consécration. V'en avera, et que leur mariage ne formait pas une avera. Donc un mariage standard. Car ça veut dire quelqu'un a consacré une femme, il n'y a pas d'avera, mariage kacher. Dans ce cas-là, avalad oler harazacha, toujours, la règle générale qu'on a, c'est que l'enfant va suivre, donc si on veut affilier l'enfant, on veut savoir de quelle famille va suivre, oler harazacha, on ira selon le garçon, selon le père. Veizo, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Comme on va expliquer après. Zo kohenet leviya veisraelit. C'est si on a un kohen, un lévi ou un israël, chenis ou qui se sont mariés, les kohen ou les lévi ou les israël. Au kohen, au lévi et à israël. Donc on a trois catégories dans le peuple juif, d'accord. Trois catégories. On a le kohen, le lévi et israël. Donc le kohen, le Lévi et le Israël peuvent se marier avec n'importe quelle catégorie des Kohen, Lévi et Israël. Donc ça s'appelle un mariage kasher. Ça s'appelle une consécration dans laquelle il n'y a pas d'avéra. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi le principe pour le Yichus? Qui c'est qu'on suit? On suit toujours le père. Donc si par exemple un Israël se marie avec une Kohenette, un homme Israël se marie avec une femme Kohenette, les enfants seront
Israël.
Donc on dit comme ça. Donc ça c'est le principe. D'ailleurs la Gemara explique. Elle dit que d'où on apprend ça. On voit que dans la parasha Bamidbar, c'est écrit les mishpechotam, les vet avotam. Que là-bas quand on cite les noms des familles, on dit que on va selon les familles, les vet avotam selon les maisons des parents. De là on apprend que pour tout ce qui est yichus, c'est-à-dire pour tout ce qui est affiliation, on se base dans la Torah sur le père. Donc, à ne pas confondre avec la judéité qui, elle, est prise de la mère. V'chol makom shiyesh avera. Maintenant, de l'autre côté, si c'était un mariage, une consécration dans laquelle il y avait une avera, comme on va donner des exemples plus tard, dans ce cas-là, avalat oler harapagum, l'enfant suivra le plus défectueux des deux, du mari et de la femme. Donc là, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire la règle, c'est ni le mari, ni la femme, on prend le plus défectueux des deux. Par exemple, ve'izo. Zo almana le kohen gadol. Un kohen gadol n'a pas le droit de se marier avec une almana, avec une veuve. Donc dans ce cas-là, grusha vachalutza le kohen idiot. Un kohen idiot, c'est-à-dire un kohen ordinaire, qui n'est pas kohen gadol, n'a pas le droit de se marier ni avec une femme qui est grusha, ni avec une femme qui est divorcée, ni avec une femme qui est chalutza, ça veut dire que son mari est mort sans laisser d'enfant, et que le frère du mari a refusé de se marier avec elle, donc du coup, on a fait la chalitza. Donc c'est un peu un style de divorce ici. Donc, une veuve pour un Kohen Gadol, et une Groucha, et une divorcée, et une Chalutza, pour une femme, pour un Kohen Gadol ou un Kohen ordinaire. Donc ça c'est... Mais la veuve, elle est permise au Kohen ordinaire.
Ah, d'accord. Au Kohen ordinaire.
D'accord. Donc là, on nous dit...
On parle
du Kohen Gadol. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Que dans tous ces cas-là, c'est quand même un Kohen, il a quand même insisté, il s'est quand même marié. Bien qu'il n'avait pas le droit. Dans ce cas-là, l'enfant devient halal. Quand on dit halal, ça veut dire quoi?
Halal dans la
Kohanim. Ça veut dire que l'enfant, il est inapte à la keuna, à la prêtrise. Ça veut dire que c'est un bon juif, etc. Mais il est inapte, pas sous les keuna. Comme c'est écrit, velo yichalel zaro, le terme halal revient de la Torah. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'on n'a pas, on a pas suivi ni le père. Donc là, par exemple, dans le cas que je viens de dire, on a vu que qui en a suivi? On a suivi la mère. C'est la mère qui avait un problème. Mm-hmm. Bon, bien que vous allez me dire, c'est l'union qui avait un problème, mais on a vu que, on a suivi le plus problématique des deux. Autre exemple. Mamzeret, ou Netina, les Israël. Ou bien, Mamzer, donc le Mamzer, on sait tous ce que c'est. Ou Netina, Le Netina, c'est ceux qui descendent de Gibeon. De Gibeon.
Caché.
Donc, c'est quoi l'histoire de Gibeon? Vous savez très bien que il y avait un peuple, quand Yeshua est venu pour faire la guerre en Israël, il y avait un peuple qui s'appelait les Givonim, qui eux, ils sont venus par ruse. Ils ont fait croire qu'ils voulaient se convertir. Mais en vérité, ils ne sont pas convertis, d'accord? C'est-à-dire, en vérité, ils ont fait qu'à leur tête. Donc, ils ont arnaqué le peuple juif. Et par honnêteté, Yeshua a dit, puisqu'on les a acceptés, donc on les garde. Il aurait pu les mettre à mort, il aurait pu faire ce qu'il voulait avec. Il les a arnaqués, il aurait pu faire ce qu'il veut. Mais Yeshua, par honnêteté, il a dit, on va les laisser en vie, on va les garder dans notre peuple. Néanmoins,
porteurs d'eau.
Puisqu'ils ont arnaqué et qu'en vérité, ils ne se sont jamais vraiment convertis, donc, on a dit qu'on ne peut pas se marier avec eux. Oui, ils peuvent se marier qu'entre eux. Les Gibbon. Donc on appelle ça les Netinim.
Bon.
Les Gibbonim. On appelle ça les Netinim. Donc, si une femme qui est Mamzer, ou bien une femme qui est Netina, donc une femme qui est Netina, ça veut dire qui descend des Givonim, s'est mariée avec un Israël. Ou bien le contraire. Bat Israël, si c'est une fille juive, donc une fille Israël, normale, qui s'est mariée, les Mamzer ou les Natin, avec un Mamzer, ou bien avec un descendant, pas une descendante, de Givonim. Le problème qu'on a dans ces deux-là, c'est quoi? C'est que, par exemple, on va prendre le Mamzer, on nous dit que, même 10 générations plus tard, il n'a pas le droit de se marier, Bilbik Al-Hachem. C'est un problème, je sais, d'accord? C'est un vrai problème qu'on a. Même si c'est pas de sa faute, il n'a rien fait, lui, le Mamzer. Puisqu'il est issu d'une union interdite, on dit que le Mamzer, même 10 générations plus tard, on peut pas se marier avec lui. Bon. Donc, si maintenant...
Ça en fait des personnes.
Non. C'est pas simple.
Parce qu'au bout de 3-4 générations, la ligne a disparu.
C'est pas simple.
Ah bon?
Ouais. Pourquoi ça en fait des personnes? Ça veut dire, il faut être sûr.
Oui, mais c'est-à-dire d'une personne, il descend de je ne sais combien.
Hachem, il est fait partir.
Bah, il faut... Ça dépend, non, pas toujours.
C'est écrit dans la Gemara,
si je ne me trompe pas. C'est écrit qu'il y a une marloquette là-bas. Qu'est-ce qui va se passer quand ma chère va venir? Est-ce que ma chère va faire de l'ordre? Imaginez-vous, ma chère, il vient, il dit, bon, telle famille illustre, en vérité, 10 générations en arrière, il y avait un problème. Donc toute la famille, goïm. C'est possible.
Ou Mamzer.
Mamzer, ou je sais pas ce qu'il peut dire. D'accord? Est-ce que ma chère va faire de l'ordre? Il y a un avis qui pense comme ça, que quand Machar va venir, Machar il connaîtra la vérité et il la dira. Mais il y a un autre avis, et la halakha est comme lui, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, Mishpacha chez Nitmea. Il dit, une famille qui est déjà noyée, on la laisse noyer. Ça veut dire que si elle est déjà noyée dans le tas et que maintenant, c'est fini, d'accord, on dit que c'est bon, on la considère qu'elle reste dans le peuple juif. Ça veut dire qu'on la considère, même si Machar saura la vérité.
Bon. Il y a pas de casse-coute.
Oui. Oui, mais Mashiach, il n'y a pas Khazaka, Mashiach il connaît la vérité. S'il connaît la vérité, on ne peut pas faire Khazaka, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a une marloquette. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ici? Qu'est-ce qu'on a vu dans cet exemple? On a vu dans cet exemple que si c'est une femme Mamzeret qui s'est mariée avec un Israël, ou si c'est une femme Israël qui s'est mariée avec un Mamzer, donc ça veut dire ou bien c'est la femme qui avait un problème, ou bien c'est l'homme qui avait un problème, on voit que dans tous les cas, l'enfant sortira problématique. Pourquoi? Parce que le principe qu'on a, c'est que quand il y a une union problématique, on suit toujours le plus défectueux des deux. C'est le principe qu'on a. S'il n'y a pas de problème, si c'est un mariage cachère, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on suit toujours le père pour la filiation. Mais si c'est un mariage dans lequel il y a une avéra, comme on l'a dit, avala doler acharapagoum, l'enfant suivra toujours acharapagoum, celui qui est le plus défectueux. Donc on a donné l'exemple. Vecholmi, She'en alav kidushin, aval yeshla alacherim kidushin, avalad mamzer. Alors, on va donner encore un autre exemple. On dit comme ça, toute personne, que si moi je me marie avec elle, mon mariage n'aurait pas pu marcher. On va donner des exemples. Aval yeshla alacherim kidushin. Ça veut dire que la femme en elle-même n'a pas de problème, mais c'est moi qui ne peux pas me marier avec elle. Par exemple, ma sœur. Je ne peux pas me marier avec ma sœur. J'ai pas le droit. Moi, j'ai pas le droit de marier avec ma sœur. Mais ma sœur n'est pas interdite. La preuve, c'est que quelqu'un d'autre a pu se marier avec elle. Donc, ma sœur m'est interdite. C'est-à-dire que le problème n'est pas ni chez ma sœur, le problème n'est pas chez moi, le problème est dans l'union de nous deux. Bon. Dans ce cas-là, là, c'est un cas différent, parce que le mamzer et le natin, peu importe avec qui se marie, ça pose problème, c'est quelqu'un de problématique. Là, aucun des deux est problématique, mais l'union des deux pose problème. Dans ce cas-là, avalad mamzer, l'enfant sera mamzer. Alors on va donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Ve'eze. Ze'aba al-achat mikol a'arayot shebatora. Si une personne a eu des relations, d'accord, al-kol al-achat mikol a'arayot shebatora sur une de toutes les nudités qui sont écrites dans la Torah, donc c'est la paracha qu'on lit l'après-midi de Kippour, d'accord, on a dans la paracha Tachanemot. Et là-bas, donc, on a toute une série de d'interdits avec des gens avec qui on n'a pas le droit de se marier. Bon, donc si on se marie avec ces gens-là, il faut savoir que, ce que nous dit la Mishnah ici, l'enfant qui sort est mamzer. La seule exception qu'il y a, c'est la Gemara qui le dit. La seule exception, oui. La seule exception qui existe, c'est la Nida. Parce que dans la série là-bas, on dit qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations avec la Nida, avec sa femme quand elle est Nida. C'est-à-dire sa propre femme, si elle est Nida. Si on a eu quand même des relations avec sa femme quand elle était Nida, l'enfant qui sort n'est pas mamzer. Bien qu'il fait partie de la liste des interdits. C'est la seule exception. Mm-hmm. Tout le reste, l'enfant est mamzer. Nous, quand on entend mamzer à chaque fois, on croit que mamzer, ça veut dire que celui qui est issu d'un mariage d'adultère, d'accord, c'est pas que ça.
Il n'y a pas marqué les cousines, non, dans la liste?
Ah, non. Il y a beaucoup de cousines, il n'y a pas, non.
Parce qu'ils ont le droit de se... Ou c'est avec la tante.
Il n'y a pas de problème. Cousine, il n'y a pas de problème.
Quelqu'un qui se marie avec sa tante, il n'a pas le droit.
Ben oui, avec la tante.
Avec la tante, on n'a pas le droit. Non, a priori, on n'a pas le droit.
Mais on a un souci sur le celui qui se marie avec sa nièce.
Il y a toute une série. Vous pouvez voir, c'est dans la paracha combien de semaines.
Non, je sais, mais donnez-moi, je ne me rappelle pas si les cousins, cousines.
Ouais, bon, c'est une autre question.
Ils n'ont pas.
Donc, je continue, on dit ici. En vérité, bien que. Juste, c'est intéressant ce que la Gemara explique. La Gemara dit que normalement. Quand on voit dans la Torah, c'est-à-dire si on voit la traduction de la Bible, le mamzer, a priori, le terme mamzer a été dit que sur un cas de mariage adultère. C'est pour ça que dans la tête des gens, quand on parle de mamzer, c'est quelqu'un qui est issu d'un mariage adultère. Mais la Gemara explique, d'accord, la Gemara fait ce qu'on appelle un principe de Xer HaShava, pour expliquer qu'en vérité c'est une erreur, et que dans tous les interdits qui sont dans la parashat HaHarimot, sauf l'interdit de la Nida, l'enfant qui sort est toujours mamzer. The Cholmi. Donc ça, c'était encore une catégorie. Ça veut dire quand ni le mari a un problème, ni la femme a un problème, mais leur union pose problème. Vecholmi, j'ai perdu la ligne. Vecholmi, she'ein la lo ala velo ala cherim kidushin, avalad ikemota. Alors maintenant, on a encore une autre catégorie, une troisième catégorie. Donc on a eu pour l'instant deux catégories. Première catégorie, on a eu quand ou le mari pose problème, ou la femme pose problème. Et il pose problème, hein, mamzer, il est mamzer par exemple. Deuxième catégorie qu'on a eu, c'est quand le mari ou la femme ne pose pas problème, séparément, mais leur union pose problème. Troisième catégorie qu'on va voir, c'est quoi? C'est si c'est une femme, que she'ein la lo ala velo ala cherim kidushin. C'est une femme qui ne peut se marier ni avec moi, ni avec les autres. Ça veut dire quoi? Qu'on va expliquer après. On va donner tous un exemple. Vous allez me dire, c'est comme le mamzer. C'est pas comme le mamzer. Parce que le mamzer, une femme qui est mamzer, elle a le droit de se marier avec un homme qui est mamzer. Donc, elle m'est interdite à moi.
Ou un prosélyte.
D'accord? Elle est interdite à moi, mais elle peut se marier, elle peut se marier avec d'autres personnes. Là, on va parler d'une troisième catégorie, des gens qui ne peuvent pas se marier. Les gens qui sont immariables. Comme ça, on dit immariables ? Ils ne peuvent pas se marier. Bon.
On a le droit d'un mariage.
Alors c'est, on va donner un exemple. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, d'abord, avant de donner un exemple, on donne la halakha. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, avalat kemota, toujours l'enfant suivra la mère. Dans ce cas-là, dans les trois années que je viens de dire, quand la femme ne peut pas être mariée, bon, toujours l'enfant suivra la mère. Alors on va donner un exemple. C'est quoi comme cas? Ve'ize, Zevlat Shifra. C'est par exemple, si on s'est marié, d'accord, ça va être l'enfant qui est issu, Vlat Shifra, donc l'enfant d'une servante. Il faut savoir que l'enfant d'une servante, il appartient à qui? Il appartient au maître. Donc puisqu'il appartient au maître, on n'a pas le droit de se marier avec lui. Cet enfant-là pourra se marier qu'avec, d'accord, c'est même pas marié, on dit que le maître il peut prendre cet enfant-là après et le faire cohabiter, oui, mais malheureusement, et le faire cohabiter avec autant de femmes qu'il veut, pour avoir autant d'enfants qu'il veut.
On parle pas de servante juive.
Pour l'instant, on est dans Vlad Shifra. Non, pas de la servante juive. La servante juive, ses enfants lui appartiennent. Donc l'enfant d'une servante appartient au maître. Donc on peut pas se marier. Si le maître, il veut la marier, d'une manière que vraiment elle va être autonome, il est obligé de la congédier, donc il est obligé de la renvoyer. Donc si maintenant quelqu'un a eu des relations avec l'enfant d'une servante, dans ce cas-là, l'enfant va suivre sa mère. Donc l'enfant va rentrer aussi dans la catégorie de Vlad Shifra, ça veut dire qu'il sera un peu une catégorie qui n'est pas mariée. Deuxième exemple.
Pourquoi je rentre dans la catégorie de mamzer?
Parce que, non, pas mamzer. Je n'ai pas dit mamzer. J'ai dit dans la catégorie qui n'est pas mariable.
Non, mais l'enfant, il est quoi? Il est mamzer?
Non, il n'est pas mamzer. Mais il rentre dans la catégorie comme sa mère, ça veut dire qu'on ne peut pas se marier avec lui.
Donc pour mamzer, il n'y a que les deux premiers points.
Ouais.
Et après, le troisième, c'est autre chose.
Oui, le troisième, c'est autre chose. Le troisième, c'est un cas dans lequel la femme n'a pas de problème, mais elle appartient à quelqu'un. Elle appartient à un maître. Donc moi, je ne peux pas me marier avec elle. Très bien. Maintenant, imaginez-vous que cette femme-là, son maître a eu des relations avec elle, ou je ne sais pas qui a eu des relations avec elle, elle a eu des enfants. D'accord? Elle a eu une fille. Et que quelqu'un a des relations avec cette fille. Et qui sort des enfants. Mm-hmm. Donc je suis parti déjà deux générations. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Cet enfant-là, il devient quoi? Il est quoi? Son père était cachère, d'accord? Mais la mère, on ne pouvait pas se marier. Eh ben, le yirous, la filiation, va suivre la mère. On va donner un deuxième exemple. C'est un exemple qui est peut-être un peu plus fréquent. Parce qu'elle est la possession. Oui. C'est une femme qu'on ne pouvait pas se marier avec elle. C'est pas moi qui ne pouvais pas marier avec elle. C'est une femme qui ne peut pas se marier. Celle qui est le matin, elle ne peut pas se marier. Deuxième exemple, Venochit. Nochit est une non-juive. L'enfant d'une non-juive sera goy. D'accord? Même si le père était juif, l'enfant d'une non-juive est goy. Pourquoi? Parce qu'une non-juive, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Personne du peuple juif peut se marier avec une non-juive. En tout cas, tant qu'elle est non-juive. Donc c'est pas moi qui n'a pas le droit, elle peut pas se marier avec qui que ce soit. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, qui on va suivre? On va suivre toujours la mère, et donc l'enfant est goy. D'accord? L'enfant est goy. Donc, Vlad, comme la Gemara dit, Vlad Nochi, Nochi. D'accord? Que l'enfant d'une goya, malheureusement est une goya. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Gemara explique, d'accord, qu'à la base, quand on regarde dans la Torah, on voit que ce principe-là, que Vlad Nochi, Nochi, que l'enfant d'une non-juive, d'accord? Que l'enfant d'une non-juive devient non-juif, à la base, c'est une interdiction qui avait été dite que sur les sept peuples qui étaient en Israël. C'est-à-dire que quand on est rentré en Israël, avec Yoshua, il y avait sept peuples. Et c'est que sur les personnes qui étaient issues de ces sept peuples qu'on disait que, attention, si vous avez des relations avec eux, les enfants qui sortiront seront goyim. Après, la Gemara explique qu'on a fait encore une fois le même principe de Gzera Shava, pour apprendre que, non seulement qu'on n'a pas le droit de se marier avec une goya, ça c'est évident, on le savait, mais que l'enfant qui sortirait de cette union deviendrait goy. D'accord? Si on s'est marié avec une goya.
Pourquoi on n'a pas le droit de se marier?
Pourquoi on n'a pas le droit de
se marier avec
un qui ne détache pas ton fils.
Exactement, ouais. C'est la paracha qu'on a lu Shavuot.
Qui n'entraîne pas.
Paracha, qui t'étais,
j'ai plus qu'à dire.
Paracha Kol HaBechor, qui t'étais.
D'accord, mais ça portait sur les sept peuples.
Oui, à la base, ça portait sur les sept peuples. Ça portait sur les sept peuples pour pas qu'ils détournent, voilà.
Portait
sur les sept peuples. Maintenant, après, dans la Gemara, on a appris qu'avec une Gzera Shava, qu'en vérité, ce principe-là, non, ça n'avait pas de discussion, sans équivoque. Le fils d'un goy, le fils d'une goya est goy. Mais, d'un autre côté, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas de demi-juif, hein.
Non, j'ai entendu dire... Non, tout à fait, ça, on sait, bien sûr. D'accord. J'ai entendu qu'il y a une... Il n'y a pas une discussion dans quelque part où le statut, justement, d'un côté, on discute entre le père et la mère qui... De qui des deux donner la judaïté et à un moment donné, on se demande si c'est pas du père, la judaïté, c'est de la mère.
Pourquoi aujourd'hui, la lacha, c'est du
père. Oui, la lacha, on la connaît, c'est clair.
C'est intéressant, je sais pas.
Mais j'ai entendu un divrézoir là-dessus où il parlait justement, mais ça a été tranché par la mère, mais que c'était le lien, il n'était pas... Avant que ce soit tranché, il y avait toute une discussion pourquoi que c'était pas le père.
Intéressant, il faudrait creuser.
J'ai écouté un petit peu.
Mais donc,
après, c'est sûr, c'est manche.
Mais d'un autre côté, d'accord, d'un autre côté, un enfant qui est issu d'un, donc un enfant qui est un non-juif qui a eu des relations avec une juive. D'accord, un non-juif qui a eu une relation avec une juive. Donc là, à ce moment-là, vous allez me dire, c'est la même chose, la femme elle est cachère, mais celui qui a eu des relations avec elle n'est pas mariable avec elle. C'est impossible, personne ne peut se marier avec un goy. Et bien là, l'enfant est cachère de chez cachère. Oui, l'enfant est cachère de chez cachère, pas de problème.
Tout le monde peut. Il peut avoir des défauts, mais il est
cachère. Non, il est cachère. Il est cachère plus que... Mais c'est ça ce qui est fort. Il est cachère. Il est cachère plus qu'un mamzer.
Ouais.
Alors, oui. C'est ça. Il est cachère plus qu'un mamzer.
Et ça, on le tire d'où?
Ça, on le tire que... Parce que ça, c'est ça le chidouche de la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est que quand on a des relations avec quelqu'un avec qui on ne peut pas se marier, et que personne du peuple juif peut se marier avec elle, c'est une troisième catégorie. Et là, dans ce cas-là, on suit toujours la mère. Dans la deuxième catégorie... Dans la deuxième catégorie. Donc on a eu trois catégories. Première catégorie, c'est quand on a dit que c'est une femme qui peut se marier avec une femme ou un homme qui peut se marier avec certaines catégories du peuple juif. D'accord? mais qui n'est pas mariable avec tout le monde. Par exemple, le mamzer. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dit? Qui on suit pour la filiation? On suit toujours le pire. Ensuite, deuxième catégorie qu'on a donnée, c'est un mari et une femme, un homme et une femme qui n'ont pas de problème, les deux, séparément, mais leur union pose problème. Par exemple, un frère et sa sœur. Là, dans ce cas-là, qui on suit?
C'est même Zerouth.
Hein? Mais qui on suit?
Quoi qui on suit?
Il n'y a pas, c'est
même Zerouth. Il n'y a pas de même Zerouth.
Alors, mais l'enfant, il est... Mais l'enfant qui on suit, il est... si par exemple, si par exemple, oui, c'est ça le piège. Si par exemple le père il est Cohen,
et... C'est même Zerouth, il va pas aller. C'est la même Zer Cohen, tu comprends?
Sauf pour le cas de Nida, tu dis.
Très bien. Sauf pour le cas de Nida. Ouais. Troisième catégorie, c'est quand il y a eu des relations entre une personne qui fait partie du peuple juif et une autre personne qui n'est pas mariée avec le peuple juif. Par exemple, une non-juive ou un non-juif. Ou par exemple, un enfant d'un esclave. Dans ce cas-là, quel est le din? On dit on suit toujours la mère.
Un esclave en lui suffit, pourquoi on dit un enfant d'un esclave?
Hein, pardon?
Un esclave en lui suffit, pourquoi on dit un enfant d'un esclave?
Non, parce que l'enfant d'un esclave, il a une catégorie, oui, il a un statut différent. Ça veut dire comme ça, même si c'est un esclave qui est juif, d'accord? Même si c'est un esclave qui est juif, son maître lui a donné une femme. Et du coup, c'était... Une femme juive? Non, une femme. Il peut lui donner même une femme goya, pas de problème. Oui. Une femme servante. Il donne une femme. Avec cette femme, il a eu des relations, il a eu des enfants. Quand il va quitter au bout de 6 ans,
Il quitte seul.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, l'enfant qui va naître de cette union-là, du fait que cet enfant-là est né esclave, il restera toute sa vie esclave.
Et sa descendance.
Ah oui, toute sa descendance, c'est à vie. À vie. Alors que... Alors oui, on l'avait étudié il y a quelques semaines, ouais. D'accord? On l'a dit il y a quelques semaines. On avait étudié qu'un esclave... D'accord? Un esclave juif, même si un esclave qui a dit je veux rester avec mon maître, donc il reste jusqu'au Yovel, on dit qu'un esclave ne se transmet pas par héritage. Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un, il est esclave, si, au bout de 6 ans, il dit je veux rester chez mon maître, il reste. Et donc il doit rester jusqu'au Yovel. Il reste encore 40 ans à rester. Et après, le propriétaire meurt. Est-ce que l'esclave passe un héritage aux enfants? Non. Mais les enfants de cet esclave passent un héritage à vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un statut particulier, parce qu'ils sont nés dans l'esclavage. Depuis qu'ils sont nés, ils sont dans l'esclavage.
Même s'il a fait l'enfant avec une juive?
Oui, ça ne change pas. Une juive esclave. C'est une esclave. Ouais, c'est sûr. Ça appartient au maître. C'est un peu de l'élevage, comme il a dit tout à l'heure. Enfin, c'est un peu...
Ça choque, mais c'est comme ça.
Hein.
Il n'a pas de statut. L'esclave, il a choisi...
Il appartient au maître.
Bon, il s'est fait mettre la boucle, là.
On va selon la naissance.
Non, dans les 6 ans, il le fait.
Oui. Ah oui, c'est très dur.
Il a perdu ce titre d'homme.
Il a eu un enfant, et quand il arrive au bout des 6 ans, il dit monsieur, dehors. Et c'est ça d'ailleurs, c'est ça le coup. D'ailleurs, vous remarquez dans la parasha Mishpatim, qu'est-ce qu'il dit le Evet quand il veut sortir? Quand il veut rester?
Qu'est-ce qu'il dit?
J'ai aimé ma femme et mes enfants, c'est une réalité. Ça veut dire que pourquoi il quitte pas?
Pour ne pas se séparer de...
Parce qu'il veut pas se séparer de sa femme et de ses enfants. C'est très dur.
C'est un piège.
Nous toujours on a toujours envie, quand on lit cette paracha, on a toujours envie de reprocher ce Evet, de dire oui, ça veut dire quoi au bout de 6 ans, pour qui il se prend, bien sûr, on va lui poinçonner le. Non. Mais quand on voit son argument, il n'est pas faux son argument, il dit mais j'aime ma femme et mes enfants.
Toute journée.
C'est un argument qui existe. Je finis juste la dernière Mishnah. Kathleen. Rabbi Tarfon Omer. Rabbi Tarfon dit la chose suivante. Yecholin Mamzerim Litaer. Rabbi Tarfon, écoutez bien ce qu'il dit. Oui, je sais. Rabbi Tarfon il dit. Yecholim mamzerim litaer. Après ce qu'on a expliqué dans la Mishnah précédente, on a expliqué que l'enfant d'un mamzer sera toujours mamzer. On a expliqué a priori que ça ira jusqu'à 10 générations. D'accord? Donc ça s'arrête jamais. Bon, alors, Rabbi Tarfon a trouvé une solution. D'accord? Il a trouvé une solution pour cachériser un mamzer. Comment? Il dit comme ça. Yecholim mamzerim litaer, des mamzerim, ils peuvent se purifier, se cachériser, de manière à ce que leurs enfants ne seraient pas mamzer, bien que normalement on délège que 10 générations.
Ouais, c'est pas eux,
comment
c'est
alors comment alors, attends, il faut trouver la technique. Ketzad, comment? Comment on peut cachériser un mamzer? Mamzer shenasa shifra. Si on a un mamzer qui s'est marié avec une servante, donc une servante qui n'est pas juive, une servante qui n'est anite. Dans ce cas-là, quel est le din? Avalad Evet. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On a dit que puisque la femme n'est pas mariable du tout avec un juif, donc l'enfant qui va sortir sera un...
Est-ce que l'enfant qui va sortir
L'enfant qui va sortir sera esclave. Très bien.
Donc pas
comme ce qu'on a dit. Il rentre donc dans la troisième catégorie. Donc pas mamzer. Shichero, dès que son père va le libérer, parce que là, ça veut dire quoi? Vous avez compris la technique? Ça veut dire qu'en vérité, cette personne-là,
Imaginez... Ah, l'enfant lui-même, il est le maître.
Oui. Le père lui-même, c'est le maître.
Oui, c'est ce que je veux dire.
Le père va se marier, d'accord. Le père va prendre une servante. Il va avoir des relations avec cette servante, il a le droit. Il va avoir des enfants de cette relation. Une fois qu'il y a des enfants, l'enfant, il est esclave. Et à la naissance, il dit, je te libère. Ah oui, ça y est, c'est fini.
Mais pourquoi on ne pourrait pas publier les deux statuts?
Ah, on va voir, justement. C'est le premier avis, c'est l'avis de Rabbi Tarfon. D'accord. Donc, Nimtsa Ben Benchorin.
Non, mais pourquoi pour Rabbi Tarfon, on ne cumule pas
les deux statuts? Justement, ça c'est l'avis d'abord Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit que, d'après lui, parce que selon Rabbi Tarfon, on rentre dans la troisième catégorie. La troisième catégorie de la Mishnah précédente, on a dit que si la relation a été avec une femme qui n'est pas mariable avec un juif,
la première et la troisième,
non.
C'est les deux.
Ah non, c'est pas troisième, non.
C'est première.
On a dit dans le troisième cas, on a dit que tout celui qui se marie, enfin qui a une relation avec une femme qui n'est pas mariable avec aucun juif, toujours l'enfant suit la mère.
Mais on avait dit aussi que un mamzer qui se mariait, on choisissait le pire.
Oui, mais on choisit le pire, attention, on choisit le pire, on avait dit Israël avec mamzer, c'est-à-dire quand les deux font partie du peuple juif. Là,
ouais,
il ne fait pas partie du peuple juif.
Ah, donc la servante est non juive.
La servante Nani, bien sûr.
Pourquoi Rabbi Tarfon n'a pas précisé?
Ah, c'est bon. Bien sûr, Shifrat Nani, c'est Shifrat Nani qu'on parle ici. Enfin, je sais pas si vous dites dans les commentaires, mais...
Non, esclave. D'accord.
Esclave, il dit pas dans les notes?
Non.
Ah, si.
À mon avis, il doit le dire, parce que sinon, l'Agmara le dit. Cananéen, très bien. Alors, donc ça c'est la vie de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit comme ça. Rabbi Tarfon, il dit que... Donc, et la question qui se pose dans l'Agmara, c'est que, est-ce que c'est une technique qu'on prend que a fortiori, ou même a priori? C'est-à-dire, est-ce qu'un mamzer peut faire ça? Ou bien c'est bon, s'il l'a fait, on ne lui dira rien. Alors c'est marqué dans l'Agmara, mais la conclusion de l'Agmara, c'est qu'explique le Rabbi Nounissim, etc., c'est que un mamzer peut faire ça, le khatrila. A priori, c'est pas le problème.
Bon. Son plan.
Ça c'est l'avis de... Bon, c'est pas mal.
Le problème, c'est aujourd'hui, trouver des mamzers...
Trouver un
évêque. Tu peux trouver un évêque. Mamzer, encore, tu...
Attends,
attendez. On va voir ce qu'il dit Rabbi Lézer. On va voir ce qu'il dit Rabbi Lézer. Rabbi Lézer Omer, Arézé, Évède, Mamzer. Rabbi Lézer, il dit non. Rabbi Lézer, il dit, puisque l'enfant, donc effectivement, tu m'as dit que l'enfant est comme la mère. Oui, il est méchant, très méchant ce qu'il dit Rabbi Lézer. Il dit, puisque tu me dis que l'enfant est comme la mère, il n'y a pas de problème, donc l'enfant serait esclave. Mais il est aussi Mamzer. Pourquoi? Explique la Gemara. Parce que, non, pas du tout. C'est un principe très bien, c'est un principe très simple qu'il dit Rabbi Lézer. Rabbi Lézer dit, quand la Torah a dit que le mamzer c'est à vie, ça se transmet à vie et que ça s'arrêtera jamais, Rabbi Lézer dit, moi je comprends que ça veut dire que ça passe dans le sang et que jamais ça peut s'arrêter. Il dit, quand la Torah te dit que Ador Asir jusqu'à la deuxième génération toujours il sera mamzer, c'est-à-dire que Rabbi Lézer dit, moi je comprends que ça veut dire que ça passe dans le sang. Ok, y a pas de problème, t'as raison, on suivra la mère. Ok, si on suit la mère, y a pas de problème. Mais dans le cas précis de mamzer, dans le cas précis de mamzer, lui Rabbi Lézer dit, moi je pense que ça passe dans le sang. D'accord? Dans les faits, Agmara dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Lézer, Baruch Hashem, d'accord? Oui, la halakha est comme Rabbi Tarfon, d'accord? La halakha est comme Rabbi Tarfon que bien entendu, dans ce cas-là, l'enfant...
Si c'est un homme!
Et sachez que
l'Agmara... C'est une précision grave,
que, là. Oui, voilà, justement, après c'est le contraire.
Eh ouais.
Sachez que l'Agmara nous dit qu'on utilisait cette technique. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agmara nous dit d'un autre côté, que cette technique-là peut être utilisée que dans l'ordre qu'on a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un mamzer qui va se marier avec une servante. Mais si, on va imaginer le contraire. S'il y a une femme qui est mamzer et qui va se marier avec un...
Un servant.
Un non-juif.
Avec un non-juif. D'accord? Là, dans ce cas-là, l'enfant, il va suivre qui?
Les deux.
Non,
ils ont dit les deux,
pire,
là.
Justement.
Le pire.
Là, dans ce cas-là, on a dit qu'on suit toujours la mère. Puisque c'est la mère, l'enfant, il sera mamzer.
Ah oui.
D'accord, parce que c'est ça le principe.
Et il dit, il reste esclave.
Le pire, on dit qu'on suit le pire que dans la première catégorie.
Mais est-ce qu'un goy peut être mamzer?
Non.
Non.
S'il y a une femme qui est mamzer.
Non, mais j'ai compris. Mais pour revenir au premier cas.
Oui.
L'enfant n'est pas juif.
Pourquoi il n'est pas juif?
Bah, parce que la mère n'est pas juive.
Mais non, il a pris une femme en tant que servante.
Ah ben, il n'est pas juif.
Non, il a le droit d'avoir des relations. Bien sûr, ils deviennent juifs, les enfants.
Comment?
Si je prends une servante, et j'ai des relations avec cette servante. D'accord?
Moi, juif.
J'ai des relations, mais attention, c'est une servante.
Oui.
Les enfants qui sortent ont les mêmes obligations que les femmes. Toutes les mitzvot que les femmes.
Comme les cananéens. Comme les esclaves cananéens.
Oui, comme les esclaves cananéens.
Mais il est pas, ils sont
mais,
pas juifs.
Mais,
c'est pas pour ça
puisque l'enfant est issu de ce mariage-là, dès que je le libère, il devient juif. L'esclave cananéen, tant qu'il est esclave chez moi, si je l'ai embauché, il était goy. Tant qu'il est embauché chez moi, il doit faire les mitzvot d'une femme. Dès que je le libère, il fait ce qu'il veut. Il peut se convertir s'il veut, pas de problème, on le fait.
Celui-ci n'est pas l'enfant.
D'accord. Mais celui-ci, cet enfant, l'enfant issu de ce mariage-là, et l'enfant issu de ce mariage-là, Non, il n'est pas non-juif. Il a les mêmes halakhot qu'une femme.
Il est potentiellement
ça veut dire que toutes les mitzvot qui dépendent du temps, il n'en a pas l'obligation. Mais une fois qu'il est libéré, il devient juif.
Il peut se convertir ou il est juif
d'office. Non, il est juif d'office.
Pourquoi parce que tu dis là
si. Pourquoi parce que son parce père que, est juif
parce que quand la femme est servante, quand la femme est servante, c'est ça la technique. C'est quand la femme est servante, on la considère comme
même non-juive.
Oui, mais non-juive, bah, bien sûr.
Attends, il nous faut trouver un truc là, grave.
Bien sûr.
Là, il y a une porte de sortie pour convertir beaucoup plus facilement, entre guillemets, tous ceux qui sont...
Mais vous savez bien ce que vous dites, mais la Gemara dit qu'on n'a pas le droit de faire les khatrila.
Oui, mais...
La seule chose qu'on a le droit de faire les khatrila...
c'est pas les khatrila.
La seule chose qu'on a le droit de faire les khatrila, c'est pour purifier un mamzer, ça on peut faire les khatrila. Mais c'est vrai que vous avez raison.
Il faut qu'elle se considère comme esclave.
Il va trouver une belle femme, il va lui dire, mais pas être mon esclave.
Voilà.